Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV, les journalistes.
You are fake news.
Il est 9h40 sur France Inter, l'instant M, ça passe vite et ça en dit long.
Et vous coupez ?
Non, je coupe pas.
Vous êtes en direct, allez-y.
20 000 pages rédigées aux quatre coins du monde. Juifs, catholiques, protestants, sociaux-démocrates, communistes, résistants, des femmes et des hommes de tous âges et de tous bords fuient l'Allemagne nazie. À la demande de trois professeurs de Harvard, ils racontent leur quotidien sous la férule d'Adolf Hitler. Un documentariste de renom décide de porter ces témoignages à l'écran. Un défi de mise en scène. Comment mettre en son et en image ces récits de bureaux, de cours d'école, de vie domestique, dont les petits riens de tous les jours croisent l'immensité historique des événements qui ont fait basculer l'Europe dans la guerre.
Instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour Jérôme Prieur.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Ma vie dans l'Allemagne d'Hitler, ce sera ce soir sur Arte en deux parties à partir de 22h20. On va en parler ensemble dans quelques instants. On va aussi écouter ensemble beaucoup d'extraits de ce travail de fourmi. Mais je cite avant que l'on commence La moustache du soldat inconnu. C'est un livre que vous publiez au Seuil à partir, on va dire, d'un film amateur et d'une obsession d'enfance. Ça n'a rien à voir avec le film dont on va parler ce matin, qui va être diffusé ce soir sur Arte. Mais voilà, on vous le recommande, La moustache du soldat inconnu au Seuil. Allez, info. Jour d'audience radio, comme tous les deux mois. RTL demeure première radio de France selon la mesure Médiamétrie avec 12% d'audience cumulée, juste derrière France Inter. Mais alors vraiment, juste derrière, ça se joue à 60 000 auditeurs près. 11,9% d'audience, notre plus haut niveau d'audience jamais atteint. 6 461 000 auditeurs, c'est 350 000 de plus que l'année dernière. Le 7-9 est donc la première matinale de France sur tous les indicateurs avec 500 000 auditeurs de plus que sa concurrente RTL. Après RTL vient Énergie qui continue sa chute et perd un point d'audience. La quatrième radio de France, sachez-le, c'est France Info en grosse progression portée par l'actualité sociale. RMC bénéficie aussi d'un effet gilet jaune et prend 0,3 points. Suivi par France Bleu, plutôt stable. Europe 1 continue, elle, sa dégringolade et perd 0,6 points en un an, c'est beaucoup. Ce n'est une bonne nouvelle, à mon avis, pour personne, car les musicales aussi se portent mal et c'est autant d'auditeurs qui ne change pas de station, surtout les plus jeunes, mais qui ont quitté tout simplement le média radio. Les chiffres le montrent très clairement. Mes côtés, comme tous les mardis, Xavier Delaporte. Bonjour Xavier.
Bonjour Sonia.
Avec
bonjour.
Sa fenêtre numérique, la fenêtre de la porte. C'est le rendez-vous du mardi. Elle s'ouvre sur quoi ce matin, Xavier ?
Eh ben, elle s'ouvre sur ce qui s'est passé samedi. En voyant des gilets jaunes s'attaquer physiquement à des journalistes de LCI, j'ai eu l'impression d'assister à un nouvel épisode d'une histoire triste, celle des rapports entre les médias et Internet en France. Avec une question, comment en est-on arrivé là ? Alors, remontons un peu en arrière. On est en 2005, la France se prépare au référendum sur le traité constitutionnel européen. La plupart des grands médias font campagne pour le oui. C'est sur des blogs et des sites personnels que se mobilise et s'argumente une opposition qui, contre toute attente, a fini par l'emporter. Internet a gagné contre la presse, qui est allée dans le sens d'une grande majorité de la classe politique et n'a pas su saisir les aspirations du peuple. Je caricature, évidemment, mais c'est le début du schisme. Or, il se trouve que dans cette période, exactement, naît ce qu'on appelle le web 2.0, celui de la possibilité offerte à tous d'écrire. Et ce nouvel Internet apparaît donc paré d'une grande vertu. Il sera le lieu de la parole libre, de la parole vraie et démocratique contre les médias traditionnels considérés comme inféodés au marché, au pouvoir et à l'audience. Au fond, on n'est toujours pas sorti de cette dichotomie. Tout ce qu'on peut lire ou entendre sur les pages des Gilets jaunes ne cesse de le rappeler, c'est Internet contre les médias. Rien ne sert de dire que c'est plus compliqué, que les frontières sont poreuses, que la presse se nourrit aussi de ce qui se passe dans les réseaux et que les Gilets jaunes sont aussi des téléspectateurs comme les autres. Les représentations l'emportent toujours sur les faits. Certes, il y a eu des tentatives pour réduire cet écart. Souvenez-vous, 2007, ces sites d'information qui se sont créés avec l'ambition que les journalistes et les lecteurs y travaillent main dans la main pour fabriquer l'information ensemble. Sauf que ces tentatives sont restées marginales et que 12 ans plus tard, il n'en reste pas grand-chose. Même les commentaires sous les articles sont en train de disparaître. Chacun a repris sa place, journaliste d'un côté, lecteur, auditeur et téléspectateur de l'autre. La faute à qui, je ne sais pas, mais un espoir a été déçu. Et un espoir déçu, c'est pire qu'un espoir qui n'a jamais existé. Et puis, À la fin des années 2000, les réseaux sociaux se sont imposés et ont offert un espace d'expression à cette parole que les journalistes n'ont pas su capter ou alors que les gens n'ont pas voulu leur donner. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, tant ces entreprises sont au fond peu soucieuses des gens, Facebook et consorts ont récupéré cet idéal de la parole libre, ouverte et démocratique. Ils l'ont fait prospérer avec leurs algorithmes, ils en ont tiré profit. Ils ont offert à n'importe quelle mobilisation la capacité inédite d'organiser sa documentation et sa communication. Ils sont devenus le lieu de la critique des médias, de la plus construite et informée à la plus insultante et délirante. Et ce que nous avons vu samedi, c'est en quelque sorte la traduction physique, in real life, comme dirait Redouane Tella, de cette histoire. Le risque que je vois poindre est que chacun s'arc-boute sur ses positions et que le fossé se creuse encore. Alors comment y remédier ? Ben je ne sais pas vraiment. Peut-être en finir pour commencer avec deux illusions. Celle que les médias donnent de considérer toute critique comme infondée, alors même qu'à l'intérieur, vous vous en rendez compte chaque jour, ils sont travaillés par les questionnements et par les doutes. Et en finir aussi avec l'illusion véhiculée par les réseaux qu'ils peuvent se passer des médias. Ce serait peut-être un bon début.
Un bon début, mais on va continuer. Le combat et la réflexion. Merci Xavier. À réécouter La Fenêtre sur franceinter.fr.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Des filles des jeunesses hitlériennes sont venues aujourd'hui dans la cour du lycée. Elles ont jeté à terre la petite Helga, la fille du médecin juif, puis elles ont commencé à lui sauter dessus à pieds joints. On voulait la secourir, mais... notre professeur est arrivé. Elle est membre du parti depuis le début. Elle nous a dit « De quel côté vont se ranger mes petites Allemandes ?» Et alors, l'une après l'autre, mes camarades ont sauté sur Helga et à la fin, j'ai participé moi aussi, jusqu'à ce qu'elle arrête de pleurer.
Extrait du film qui sera diffusé ce soir en deuxième partie de soirée sur Arte, signé Jérôme Prieur. Comment avez-vous eu connaissance de l'existence de ces témoignages, Jérôme Prieur ?
Eh bien, un peu par hasard, en travaillant sur un autre projet, ma productrice m'avait fait lire un livre sur la Nuit de Cristal.
Oui.
Et je me suis rendu compte que ce livre provenait d'une suite de témoignages qui avaient été rassemblés il y avait un certain temps. Et quand j'ai découvert cette source, je me suis dit, mais c'est ça qui m'intéresse. La source, c'était un concours, hein, je dis bien, une enquête, mais sous forme de concours, lancée par l'université de Harvard, mm-hmm. par trois professeurs, mm-hmm. un sociologue, un historien et un psychologue, à l'été 1939, auprès de tous les exilés allemands qui avaient réussi à fuir leur pays. Et donc, les uns ont fui dès 33, les autres ont attendu en pensant que la situation allait pas empirer, et donc les derniers partent en 39, et ils ont jusqu'au mois de mars 1940 pour répondre. Donc ça fait un ensemble, il y a près de 300 témoignages.
Il y a près de 20 000 pages. D'ailleurs, à plusieurs reprises, il y a des plans dans votre film avec des pages tapuscrites ou manuscrites. Est-ce que ce sont les originaux ?
Ah oui, bien sûr, bien oui sûr, oui bien sûr. Bien sûr, c'est extrêmement émouvant d'ailleurs. Oui. Moi, j'aime beaucoup le papier, je le trouve très photogénique, mais d'être devant cette trace de ces gens-là, quoi, qui ont
absolument
tapé à la machine
absolument
avec force, et donc on voit les lettres qui sont imprimées, c'est quelque chose d'eux, ou leurs mains, enfin, on sent leurs mains, ou leurs photos, quelquefois. Ils sont restés en contact avec ses interlocuteurs aux États-Unis, et donc ils leur envoient des petits mots, ils leur envoient des photos, ils leur envoient des documents. Les uns n'en voient rien de plus que le texte, mais le texte, faut se dire que c'est pas l'âge de la photocopie.
Non.
C'est éventuellement du papier carbone, où c'est des originaux qu'ils envoient comme ça aux États-Unis à des gens qu'ils ne connaissent pas. Et j'ai été sidéré par le fait que cette enquête, moi-même j'ai enquêté après, ait été si peu connue. Enfin, elle n'est pas complètement inconnue, jamais rien n'est inconnu, mais très peu de textes ont été publiés.
Alors, comment la mettre en son et en image ? Passionnante question de mise en scène que pose ce projet.
Mon nom est Walter Gisling, j'ai 30 ans. Je viens d'une famille protestante aisée de Munich. Membre du SPD, je suis journaliste. C'est effroyable, mais on s'est habitué à ce que les journaux de gauche soient interdits, les syndicats occupés, des centaines de socialistes et de communistes arrêtés. Mais que ces bandits ne connaissent aucune limite, cela ne s'était jamais vu en Allemagne.
Une voix unique. Vous avez choisi une voix unique, Jérôme Prieur, celle de la chanteuse et comédienne allemande Ute Lamper. Pourquoi ne pas avoir mis en scène la diversité des âges, des accents, des origines sociales de vos témoins ?
Parce que faire un film, et un film documentaire particulièrement, c'est faire des choix, c'est faire une série
Absolument.
De choix. C'est choisir de montrer, de reconstituer ou de pas reconstituer. C'est, moi, enfin, je suis un peu agacé de voir que les formes se standardisent et que un documentaire, voilà, un documentaire, on dirait qu'il faut toujours qu'il y ait de la fiction, du docu-fiction. J'adore la fiction, même c'est pour moi un modèle, la fiction. Mais je trouve que le docu-fiction, personne n'y trouve son compte. Je suis frappé de voir que quand on ne peut pas montrer un événement, on montre, on dessine, on demande à des dessinateurs d'intervenir, ou on fait appel à de l'image de synthèse, etc. Ça me déçoit profondément.
C'est exactement ce que j'allais vous dire, Jérôme Prieur. Imaginez des moments d'animation parce qu'on les voit beaucoup.
Ne me faites pas de peine.
Vous avez
prononcé un mot qui est très important pour moi, qui est le mot imagination. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est dans l'espace du documentaire, dans l'espace du réel, dans la recherche du passé, qu'il n'y a pas des outils pour le montrer. Et pour le montrer, il s'agit aussi de le faire imaginer, de le faire rêver. Il y a quelque chose d'onirique dans le travail du documentaire.
Alors, d'où viennent vos images, d'où viennent ces archives qui c'est un tissu extrêmement construit avec des coutures très subtiles. Vous ne cherchez pas à illustrer
les
témoignages. Pourtant, parfois, l'image colle à ce qui est dit, au récit qui est fait. D'où viennent ces images ?
Alors, j'ai pas répondu à votre question. Pourquoi une voix unique ? Parce que les sources sont multiples. Il y a toutes sortes de témoins, il y a toutes sortes d'images, et je voulais au contraire que tout ça soit rassemblé, pris en charge, incarné, mais incarné par une voix, et une voix unique, et une voix avec un petit accent allemand, celle de cette merveilleuse chanteuse et actrice Ute Lamper. Voilà. Et sinon, ce que je voulais pas, c'était utiliser, comme on l'utilise de plus en plus souvent, naïvement, les images de propagande, les images officielles. On pense qu'il suffit de les débarrasser, de les nettoyer, et je pense qu'elles sont plus fortes que ça, et que notre vision du nazisme, il est coloré par la propagande du Troisième Reich, que le nazisme est toujours vivant à travers ces images. Et donc, il y a quasiment pas d'images de propagande, et il y a des images qui viennent, qui sont l'équivalent des témoignages, c'est-à-dire des images à la première personne, des images qui, pour l'essentiel, viennent de films amateurs ou de films non professionnels. Et ces images, elles nous donnent à toucher quelque chose de l'air du temps, mais aussi elles nous donnent à voir quelque chose qui est imprévu, qui est maladroit, qui est improvisé. Je pense, je citais Hitler, il y a dans le film, on le voit très peu. C'est-à-dire que supposons qu'on ait été allemand et qu'on ait vécu, à Münster ou à Dresde.
On aurait eu très peu de chance de le croiser physiquement.
On avait très peu de chance de le croiser physiquement, sauf au cinéma. Et donc j'ai voulu restituer cet effet-là. On l'aperçoit.
D'ailleurs, les récits de vos témoins qui disent « j'ai vu le vieil Hindenburg » ou « j'ai vu Adolf Hitler » et qui le décrivent physiquement et qui décrivent ce que ça leur a fait.
Oui.
Pour nous, c'est extrêmement saisissant.
Oui,
saisissant.
Oui.
Ce qui est très intéressant dans ce que vous avez justement cousu, tricoté, Jérôme Prieur, c'est que
il y a le déroulement chronologique. Oui, bien sûr.
Et thématisé, c'est-à-dire que vous allez chercher dans chaque témoignage les quelques phrases qui disent à la fois une phase clé et une facette caractéristique du régime. La vie de bureau.
Je pouvais m'estimer heureux de ne pas travailler dans une entreprise. Avec tous les discours à écouter en boucle à la radio, les célébrations, les messes du parti quasiment tous les soirs et le dimanche. Ces occupations incessantes, sous la surveillance des autres, les chefs, les collègues, avaient pour objet de polir l'apparence et l'intellect de chaque individu jusqu'à obtenir un éclat uniforme.
Ah oui, ça, c'est moi, pour moi, ça fait partie des scènes les plus fortes du film, parce qu'on les connaît on les connaît moins que les scènes qui concernent la prise du pouvoir, l'arrivée au pouvoir d'Hitler. C'est comment le nazisme s'est emparé des corps, des cœurs, des âmes, et comment
l'individu ne s'appartient plus. Raconte un autre homme, les affaires les plus intimes sont soumises au credo de l'État, il n'y a plus ni porte ni serrure.
Oui, plus casserole, plus lit, plus livre. C'est Eva Wiesbach qui dit ça, qui est une actrice, enfin qui a pas fait fortune à Hollywood, mais qui a cette phrase lapidaire qui résume tout. Enfin, et je suis un petit peu déçu que les programmateurs d'Arte aient décalé cette programmation en deuxième ou en troisième partie de soirée. Ça, c'est dans la troisième partie. Et donc, j'invite vraiment ceux que ça intéresse et qui vont tomber de sommeil à enregistrer ou à regarder en replay ou acheter le DVD, etc. Parce que je trouve que dans le deuxième épisode du film, il y a des images sidérantes sur la manière dont la vie privée, la vie quotidienne est en douceur d'une certaine façon, avec l'assentiment, avec la soumission, avec la peur, et s'empare de la vie.
Je voulais savoir justement, Jérôme Prieur, les films, les écrits, les archives, les travaux d'historiens ne se comptent plus. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus ? En parcourant ces témoignages, qu'est-ce qui vous a semblé nouveau, éclairant? Qu'est-ce que vous y avez découvert qu'on ne sait pas déjà?
Ben, je pense qu'on sait beaucoup de choses, hein. On sait énormément de choses, mais là, on l'entend, on le perçoit avec la chair de ces êtres humains, quoi, qui ont été, pour moi, les premiers résistants au nazisme. Ils ont résisté. Peut-être contraints et forcés, mais on s'aperçoit en les écoutant que prendre la décision de s'en aller, de tout quitter, c'était un acte de grand courage. Et qu'est-ce qu'on découvre dans ce
par
film ?
Par exemple,
on découvre des êtres. J'insiste beaucoup. On a pu dire que j'avais exhumé un certain nombre de témoignages. Exhumer, ça voudrait dire que ces témoignages étaient le fait de gens qui sont morts. Bien sûr qu'ils sont morts, mais je trouve que c'est plutôt des êtres vivants qu'on découvre. Quand j'ai commencé à lire ces textes, j'étais comme dans les limbes, dans cet état intermédiaire. Comment on n'a pas entendu leur voix, mais il faut que moi je sois leur porte-voix.
Par exemple, quand l'un d'eux décrit les purges, mais vraiment, c'est-à-dire l'épuration des membres du SPD, du Parti Social-Démocrate, la violence que ça a été. Je me suis dit peut-être que finalement, la mémoire de la guerre, la mémoire de 39-45, fait rideau sur cette mémoire des années 30, sur cette Allemagne des années 30.
Ah oui,
pour ma génération, en tout cas.
Oui, oui, oui. Non, puis il n'y a pas seulement le temps qui fait rideau, mais il y a aussi les images. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué à certaines images qu'on ne les voit plus. Et que là, justement, montrer la vie quotidienne sous la République de Weimar, ces carrousels, ces manèges, enfin bon, c'est une façon métaphorique de résumer une période historique beaucoup plus complexe que cela. Mais de montrer que comment sont les rues, comment sont les gens dans les rues, la joie qu'il y a ou la gêne. Il y a une scène où on aperçoit des employés d'entreprise à qui on a donné des glaces. Et on se dit, manger une glace à cette époque, c'est un cadeau. Et donc, ils sont filmés. L'image est en couleur, c'est magnifique. Et ils sont heureux de manger ces glaces. Et en même temps, ils sont gênés d'être filmés, gênés d'être ce qu'ils sont, gênés d'être
rachetés. Ils sont sous surveillance,
voilà.
Merci beaucoup Jérôme Prieur. On n'a pas du tout envie de vous quitter. C'est la fin de l'émission et votre film est diffusé à 22h20 sur Arte. Bonjour Ali Rebelli.
Bonjour Sandrine. Il est passionnant votre invité.
Oui, et son film aussi.
L'homéopathie n'est-elle qu'un simple effet placebo ? C'est la question que nous posons ce matin.
C'est la question explosive.
Explosive, qui va faire exploser le standard, j'imagine. 01 45 24 7000.
À tout à l'heure.